La coalition des fondations françaises pour le climat présente Climat et ODD, les fonds et fondations en action.
Témoignages de fonds et fondations sur leurs engagements pour le climat.
Une collection de podcasts originaux produite par le Centre français des fonds et fondations avec le soutien de la Fondation de France.
Et réalisée par Écran Sonore.
Quel rôle pourraient ou devraient jouer les fonds et fondations dans les initiatives pour accélérer les transitions, favoriser la résilience des personnes et des sociétés les plus vulnérables face aux défis du changement climatique, tant qu'il est encore temps?
Puisqu'il est encore temps.
C'est ce que cette série de podcasts originaux propose de faire entendre.
Et c'est tout l'enjeu de la Coalition française des fondations pour le climat, la CFFC,
créée en novembre 2020 par le Centre français des fonds et fondations, pilotée par la Fondation Daniel et Nina Carasso, la Fondation de France, le Fonds Lire et Sourire et la Fondation Terre Solidaire. Plus d'une centaine d'entre elles ont rejoint cette initiative salutaire et signé le manifeste proposé par la CFFC. Il s'adresse à tous les types de fonds et fondations, quel que soit leur objet, leur forme juridique et leur taille.
Si vous souhaitez rejoindre ce mouvement ou en savoir plus sur les actions des fondations, cette collection inédite de podcasts est faite pour vous. 6 épisodes pour 6 piliers du changement contenus dans le manifeste pour le climat.
Épisode 3.
Bailleur, opérateur, innover et intégrer le défi climatique.
Dans les projets et les programmes, le climat, c'est fondamental.
Parce que la lutte contre le changement climatique est transversale et inhérente à toutes les causes.
Sous-jacent.
Oser l'imagination.
Stratégie.
Moyens.
Budget.
Finances vertes.
Les ODD, par leur exigence et par l'exigence de ne laisser personne de côté, nous invitent à transformer nos façons de faire vers davantage de coopération.
Créativité.
Co-construction.
Impact.
Cohérence.
Transparence.
On n'est pas tout seul.
Construire l'agenda des solutions.
Le modèle du futur.
Bonjour, je suis Jean-Marc Potra, délégué général du Centre français des fonds et fondations. Je dois vous présenter le pilier 3 du manifeste de la CFFC, Coalition des fondations françaises pour le climat, dont l'enjeu est d'intégrer le climat dans le financement des projets soutenus par les fondations. Le changement climatique aujourd'hui n'est plus une projection lointaine, égrenée depuis des années au fil des rapports du GIEC, mais désormais une réalité que l'humanité prend de plein fouet. En tant que bailleur ou opérateur, pour sélectionner un projet, un programme ou une opération, la prise en compte de l'enjeu climatique est désormais un enjeu et un critère fondamental pour 65% des fondations qui ont été interrogées au lancement de la coalition des fondations pour le climat. La prise de conscience concernant le caractère systémique des enjeux environnementaux dans les activités des fondations est désormais certaine et sa mise en œuvre, par vous, peut être améliorée. J'espère que tous ces témoignages et ces explications vous donneront envie de rejoindre cette mobilisation collective de la CFFC. Nous vous attendons avec plaisir et d'ici là, bonne écoute.
Nous, fondations et fonds de dotation, affirmons qu'il y a urgence à agir face au dérèglement climatique. En tant qu'acteurs de l'intérêt général, nous apportons une contribution significative dans les domaines de la solidarité, la culture, la santé, la recherche, l'éducation, l'environnement ou la réduction des inégalités.
Anastasia Macridou, concrètement, comment vous intégrez le climat à l'intérieur de vos programmes dans cet axe art citoyen ?
Dans l'axe art citoyen, nous avons une grande thématique qui s'intitule art, sciences et société, une thématique qui était existante depuis la création de notre fondation, donc une belle intuition, aujourd'hui transformée en conviction, que nous traversons une nouvelle ère qui exige la transdisciplinarité, exige les alliances, exige les synergies. Et pour aboutir à une transition civilisationnelle, il faut que même tous les domaines de savoir, tous les domaines de la recherche puissent travailler ensemble. Donc à travers ces programmes, nous renforçons, nous soutenons les coopérations entre artistes et scientifiques sur les grands enjeux des sociétés. Évidemment, le changement climatique est un grand enjeu des sociétés qui occupe beaucoup de nos partenaires que nous soutenons donc depuis 2014 à travers un appel à projet qui s'intitule « Composer les savoirs pour imaginer un avenir durable ».
Les artistes deviennent scientifiques, les scientifiques deviennent artistes.
Les artistes restent artistes, les scientifiques restent scientifiques, mais chacun, à travers ses outils de recherche et de travail, collabore pour produire de nouveaux savoirs, mais aussi, ce qui est très important, de nouveaux récits qui nous permettent de nous projeter justement dans un avenir durable, mais aussi désirable.
Est-ce que vous auriez un exemple, un projet que vous avez financé et accompagné à l'intérieur de ce programme ?
Oh, combien c'est difficile de répondre à cette question, parce que nous avons soutenu et nous soutenons aujourd'hui encore des magnifiques projets. Je pourrais vous parler de projets qui a réuni l'artiste Nicolas Flock et l'océanographe Hubert Loisel, rattaché au laboratoire d'océanologie et de géosciences à Vimereux, à côté de Boulogne-sur-Mer. Ils ont travaillé ensemble pendant un certain nombre d'années sur la question de la couleur de l'eau. La couleur de l'eau nous permet de comprendre le milieu biologique qui est vivant au sein de l'eau et la qualifier de cette manière-là. Pour les scientifiques, la couleur de l'eau était toujours traduite par des diagrammes, par des schémas, et jamais restituée esthétiquement comme une couleur, comme on le conçoit communément. L'artiste, au contraire, étant artiste, s'intéresse à l'aspect plastique, formel, esthétique de la couleur. Ils ont travaillé donc ensemble, et grâce aux recherches de l'artiste, lui-même grand explorateur de la mer, un instrument a été inventé pour que des prises de vue de la colonne de l'eau puissent être faites et qui restitue justement cette fameuse couleur de l'eau qui est exploitée à la fois par l'artiste sur un plan esthétique, un travail qui était salué par le monde de l'art un peu partout, et par les scientifiques pour amplifier leurs recherches sur la dimension biologique qui caractérise l'eau. Bien évidemment, là, nous sommes clairement dans une coopération qui a produit des nouveaux outils, qui a produit des nouveaux savoirs et qui permet un développement à la fois ouvert à la société, parce que le travail d'un artiste, il est par essence ouvert au public et aux scientifiques d'enrichir leur méthode d'enquête et d'investigation.
On quitte la Grande Bleue. Très chère Anastasia Macridou, et peut-être on revient vers Paris, un environnement, enfin la région parisienne, beaucoup plus urbain donc, où des projets apparaissent, toujours avec cette volonté de faire que se rencontrent et les scientifiques et les artistes, sous l'égide de votre fondation Daniel et Nina Carasso.
Mais j'aimerais vous parler d'un projet qui se déroule à Vitry-sur-Seine, un projet porté par un collectif d'artistes qui s'appelle Tangible, qui associe plusieurs artistes, et également quatre chercheurs du Muséum national d'histoire naturelle, autour du devenir d'une ancienne centrale EDF, une centrale thermique qui fonctionnait au charbon. Ce secteur de la ville de Vitry-sur-Seine est fait aujourd'hui l'objet d'un grand aménagement urbain pour accueillir un nouveau quartier. Et la question, évidemment, se pose, que fait-on maintenant de ces déchets à l'échelle d'une gigantesque architecture ? Comment on recycle notre passé et lui donner un nouvel avenir positif ? Donc, le collectif d'artistes accompagne les habitants de la ville, certains d'entre eux anciens employés de la centrale, qui gardent la mémoire du lieu, et travaille avec les scientifiques ensemble pour voir comment finalement les organismes, des micro-organismes, peuvent intervenir pour absorber et détruire d'une façon lente mais naturelle ce que nous avons construit en créant des entropies dont on ne sait pas quoi trop faire aujourd'hui.
À vous entendre, on imagine la richesse des projets qui vous sont soumis. Quels sont les critères fondamentaux qui orientent votre sélection à travers ce programme ?
Le premier critère, c'est que le projet porte sur la question de la transition juste et écologique. Qu'il y a un véritable collectif composé d'artistiques et de scientifiques, et aussi un autre critère, on sait que c'est très difficile de le respecter partout dans toutes les conditions, associer la société civile. Très important que les projets puissent être situés sur un territoire, dans un quartier, faisant un travail certes spécialisé par rapport aux problématiques d'un endroit précis, mais en même temps on sait très bien que par exemple les inondations peuvent se produire en Aveyron, mais se produisent un peu partout dans le monde. Donc comment ces projets-là puissent travailler sur des problématiques locales mais qui ont une dimension mondiale dans le cadre, bien évidemment, du réchauffement climatique et du dérèglement général de la biodiversité.
Avez-vous mesuré une chose, Anastasia Makridou, c'est le degré de désespérance que certains artistes, qui sont donc beaucoup plus à même dans leur sensibilité propre de ressentir peut-être les dégâts qu'on fait aujourd'hui à notre terre, à notre chère terre mère, avez-vous senti chez eux parfois de l'optimisme et de la joie? Qu'est-ce qui les anime dans cette démarche?
La force des artistes, la force de l'art, c'est de reproduire des mondes qui parfois sont très sombres parce que très inspirés de ce qui est la réalité, mais aussi la grande force de l'art et des artistes, c'est de produire des mondes lumineux, des mondes qui nous donnent envie d'y être. Et donc je pense que oui, parmi les artistes, il y a aussi cet engagement, il y a un certain militantisme qui va au-delà, disons, du diagnostic extrêmement sombre et qui souhaite nous ouvrir de nouveaux horizons.
L'espoir?
L'espoir, l'espérance, la confiance en nous et des grandes leçons aussi d'empathie, d'une certaine humilité, sortir de notre anthropocentrisme et découvrir la joie de se sentir partie du monde.
Qu'est-ce que vous faites devant cette interrogation, de ce sentiment qui est souvent partagé, qu'il serait déjà peut-être trop tard?
L'union est absolument nécessaire. Une mobilisation générale est absolument nécessaire. Elle n'est pas simple à mettre en place. Je pense que là, on touche finalement une dimension quasiment politique du problème. Et quand je dis politique, je parle de res publica, c'est-à-dire les affaires communes, dans lesquelles les fondations ont un rôle très important à jouer parce qu'elles-mêmes représentent la société civile. Donc l'union des fondations, au-delà d'être un symbole, doit se transformer en véritable action, un véritable soutien à des initiatives, à des endroits, à des personnes. On peut produire des solutions que nous pouvons adopter aussi en tant que citoyens. Et qu'on se trouve, il faut sortir de notre sentiment de culpabilité. Je pense que les citoyens lambda que nous sommes, nous trouvons souvent dans une situation extrêmement perplexe de culpabilité. Est-ce qu'on s'est dit, mais moi, à mon niveau, qu'est-ce que je peux faire? Bien sûr, je peux trier mes déchets, je peux prendre moins l'avion, je peux prendre le vélo au lieu de prendre ma voiture, etc. Tous ces gestes que finalement nous sont proposés et communiqués, qui sont des gestes absolument nécessaires, ça nous laisse dans une certaine solitude. Donc il faut que les actions des uns, des autres, des unes et des autres puissent ruisseler dans une sorte de grand fleuve collectif et nous mettre en mouvement en tant que société, en tant qu'un ensemble d'individus regroupés autour d'un projet commun.
Bonjour, Delphine Guzman, chargée de projet du programme Environnement pour la Fondation BNP Paribas.
Sur quel secteur agissez-vous en particulier à la Fondation BNP Paribas?
Alors, aujourd'hui, la Fondation agit au niveau du pôle environnement sur trois axes. Le premier étant le soutien à la recherche scientifique par le biais de notre programme Climate and Biodiversity Initiative, un programme lancé en 2010 qui a soutenu depuis 27 équipes de chercheurs, 18 millions d'euros pour la recherche scientifique dans la lutte contre le changement climatique et l'érosion de la biodiversité. Le deuxième axe est la sensibilisation et la vulgarisation avec presque 600 000 personnes qui ont été sensibilisées depuis le lancement du programme. Et enfin, le troisième axe qu'on essaye de développer depuis quelques années, c'est la partie accessibilité à la donnée. Donc on a eu l'occasion de soutenir différents projets, dont un projet qui s'appelle le Carbon Atlas Project.
Bonjour, Nathalie Andrea Mamongi, chargée des programmes environnement de la Fondation BNP Paribas. Donc effectivement, à travers le programme Climate and Biodiversity Initiative, donc ce sont des projets de recherche qui étudient les interactions entre climat, donc plutôt le changement climatique, et la biodiversité, et a fortiori son érosion. Et donc ça a mené aujourd'hui à avoir soutenu 27 équipes de recherche qui sont constituées de chercheurs, de chercheuses, de professeurs, d'ingénieurs et de techniciens qui vont sur le terrain et qui, par exemple, étudient les effets du changement climatique sur les défenses des arbres face aux insectes herbivores, par exemple. Donc, en fait, l'objectif, c'est de voir, en étudiant sur un gradient de température à l'échelle de l'Europe, si dans quelques années en France il fait 10 degrés de plus, comme la température qu'il fait aujourd'hui par exemple en Espagne, comment vont réagir les arbres dans ces quelques années par rapport au changement, enfin voilà, à la température, au changement climatique. Par exemple, ce projet qui s'appelle Tree Bodyguards, donc les gardiens, les gardes du corps des chênes, il a aussi un volet science participative. Donc en fait, il fait participer des classes d'élèves de la primaire au collège, voire au lycée, dans toute l'Europe. Et du coup, les enfants sont amenés à poser des chenilles en pâte à modeler dans des chênes, bien spécifique, hein, avec un protocole scientifique validé par l'équipe projet, donc par les chercheurs. Donc ils posent ces chenilles dans les arbres quelques jours, et puis au bout d'un certain laps de temps, ils viennent observer ces chenilles, récupérer et observer ces chenilles en pâte à modeler pour observer en fait quels organismes ou quels animaux ont attaqué les chenilles, et donc voir s'il y a plus ou moins de prédateurs de ces herbivores pour défendre les arbres, en fait. Et est-ce que le changement climatique a un impact sur la population des défenseurs des arbres, ou leur fréquence, quand est-ce qu'ils interviennent, etc. Ça, c'est un exemple de projet qu'on soutient là dans notre dernière saison, on va dire, 2020-2022. On a aussi un autre projet, par exemple, qui alors avait été imaginé avant qu'on traverse une pandémie, mais qui malheureusement répond bien à la problématique. Ce projet s'appelle Humani, et c'est un projet donc qui étudie au Zimbabwe, à l'interface entre l'homme et la nature, donc des zones vraiment sauvages, on va dire, et à l'interface entre des villages, donc avec des populations humaines, en quoi la présence de la biodiversité ou de sa perte de biodiversité favorise ou pas la transmission des pathogènes entre les espèces animales sauvages et domestiques et, a fortiori, vers les espèces humaines. Donc voilà, là, on est vraiment dans un sujet qui est complètement actuel. Donc voilà, essayer de voir si le changement climatique, en ayant des effets, enfin, quels effets sur la biodiversité dans ces régions, est-ce que ça favorise ou pas la transmission des virus, des bactéries ou autres pathogènes. Voilà, donc ce sont vraiment ce type de projets qu'on essaye de sélectionner et de soutenir. Alors, il y a beaucoup d'autres sujets divers qu'on a déjà soutenus. Agroforesterie, par exemple, quel type d'essence d'arbres il faudrait planter ensemble pour qu'ils soient les plus performants possibles dans la lutte et l'atténuation des effets du changement climatique. Par rapport à l'agriculture aussi, on a eu des projets qui étudiaient comment mieux faire de l'agriculture dans certaines régions du monde pour pouvoir s'appuyer sur
les mécanismes déjà existants de la nature qui se débrouillent en fait très bien toutes seules. Et c'est nous qui venons perturber un petit peu les mécanismes naturels. Voilà, on a des projets bien sûr sur la biodiversité marine, les récifs coralliens, quels impacts de la pêche et de la surpêche aussi sur la biodiversité et donc sur les océans. Voilà, l'acidification des eaux, les glaciers face au changement climatique aussi. Alors les pôles et où les glaciers dans les zones tempérées sur le globe. Voilà, vraiment, on essaye de couvrir au maximum toute la biodiversité terrestre, toute la biodiversité marine, et puis toutes les zones agricoles, les zones polaires, les océans, les forêts, les récifs coralliens, etc.
L'innovation du programme, c'est surtout de soutenir des recherches qui peut-être n'auraient pas été soutenues dans un pipe plus classique, en fait. Et tout ce que ça amène aussi comme visibilité pour les chercheurs dans un écosystème qui est un peu différent de leur écosystème, puisque finalement, on a mis en place aussi tout un certain nombre de conférences pour finalement faire connaître ces recherches auprès de nos collaborateurs, auprès du grand public, parce que toutes les conférences sont filmées, pour aussi faire connaître finalement toutes ces recherches plus largement au grand public et de tout âge. On a eu la chance finalement de soutenir des super chercheurs et des super projets, et on voit bien à quel point ce soutien à la science est importante, notamment parce qu'on manque beaucoup de connaissances en fait pour des prises de décision qui permettent de préserver finalement la biodiversité et de lutter contre le changement climatique.
Effectivement, la sensibilisation, c'est vraiment aussi une des innovations de notre programme, parce que les chercheurs ont été très longtemps habitués à partager leurs résultats de recherche, mais avec le monde de la science. Et aujourd'hui, un point qui est très important, c'est effectivement vulgariser cette science. Alors vulgariser qui n'est pas un mot vulgaire en soi, et qui permet justement de partager avec le grand public, vraiment les enfants, les moins jeunes, mais qui ont besoin de comprendre à quoi sert la recherche, que veut dire tel résultat obtenu grâce à la recherche, et pour pouvoir mieux comprendre et mieux appréhender ensuite son rôle de citoyen et de citoyenne, pour pouvoir prendre des décisions éclairées, en fait, savoir pourquoi je dois prendre telle décision pour ma planète, pour ma santé et la santé de la planète et d'autrui.
Sophie Pouget, déléguée générale de la Fondation Raja Daniel Marcovici. La Fondation Raja Daniel Marcovici a été créée il y a 16 ans, en 2006. C'est l'une des plus anciennes fondations françaises engagées sur les questions de droits des femmes et des filles, avec une mission principale qui est de cofinancer des programmes et des projets portés par des associations en France et dans le monde sur différents sujets. À la Fondation, on a une vision à 360, puisqu'on couvre toutes les thématiques, à savoir la question de la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles, la question de l'accès à l'éducation et au leadership des jeunes filles, la question de l'insertion professionnelle et de l'accès aux droits économiques des femmes, et enfin, depuis 7 ans, la question de l'action des femmes en faveur de l'environnement.
Sophie Puget, du carton, de l'emballage à l'environnement, il n'y avait évidemment qu'un pas.
Presque, mais effectivement le volet femmes et environnement qu'on a mis en place il y a 7 ans est né de la volonté de notre présidente Danielle Capel-Marcovici de vraiment s'engager un peu plus sur ce sujet et de relier en fait les deux thématiques qui nous engagent au quotidien, qui sont la question de la défense des droits des femmes et des filles, les questions d'égalité femmes-hommes tout simplement, et la défense de l'environnement.
Sophie Pouget, que pourriez-vous dire à une fondation qui ne voit pas l'intérêt, mais pas du tout, d'intégrer les ODD dans sa stratégie opératoire ?
Bien, j'ai envie de dire à ces fondations qu'elles le font certainement déjà, puisque quel que soit le sujet sur lequel les fondations ou les fonds s'engagent aujourd'hui, éducation, insertion professionnelle, accès à la santé, sur l'ensemble de ces sujets, en réalité, il y a une dimension qui fait écho à l'un ou plusieurs des 17 ODD. Comme on l'a fait à la Fondation Raja Daniel Marcovici, on s'est rendu compte
que l'ensemble des projets que nous soutenons sont tous pertinents d'une manière ou d'une autre et ont tous un lien avec l'un des 17 ODD. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose que j'ai envie de dire, c'est, puisque certainement vous le faites déjà, mais regardez ce que vous faites et appliquez la grille des ODD. Et vous allez voir que beaucoup des projets que vous soutenez, portez, sont en lien avec l'un ou plusieurs des 17 ODD. Et puis, en faisant ça, c'est quelque part aussi vertueux, puisque ça va vous permettre de soutenir de manière plus pertinente des projets plus impactants. Parce que c'est une grille qui est très utile pour préciser les actions à porter, les actions à préconiser, les actions à encourager. Et en ça, la grille des ODD, les objectifs de développement durable, est un outil extrêmement précieux qui permet de repenser les problèmes dans toutes leurs dimensions et en prenant en compte toutes les facettes de ces freins, de ces barrières qui existent quant à la protection de notre terre, de l'environnement ou la protection des êtres humains, des femmes et des enfants. Et donc vraiment, c'est un outil qui nous permet de penser l'avenir de manière holistique et globale. Sans faire d'idéalisme, mais en étant très pratique et en offrant une possibilité de découper précisément les différentes questions et de les traiter les unes après les autres, tout en les inscrivant dans un contexte global.
Sophie Pouget, pour concrètement nous donner un exemple de l'action de la Fondation Raja, qu'est-ce qui vous vient naturellement à l'esprit ?
Alors, je pense au Pérou et à l'association INTI Énergie Solidaire que nous avons pu soutenir, qui œuvre dans deux régions, d'Arequipa et de Puno, où la collecte intensive du bois pour la cuisine et le chauffage impacte la santé des femmes et qui entraîne aussi une déforestation massive. Et là, on a tout simplement soutenu ce projet qui visait à doter plusieurs centaines de familles de cuiseurs solaires afin de, à la fois, limiter la quantité de bois consommé et les émissions de fumée nuisibles pour la santé des femmes et pour l'environnement. Et donc là, on l'a vu très concrètement, ce projet a permis de toucher de manière transversale plusieurs ODD. L'ODD 3, avec une amélioration de la santé des femmes et des familles qui ne sont plus exposées aux fumées de cuisson toxiques. Les ODD 13 et 15, puisque le projet participe à la lutte contre les changements climatiques. L'utilisation des cuiseurs solaires par les familles a réduit leur consommation de combustible pour les usages domestiques. Et on l'a vu, c'est en moyenne une réduction de 37% de leur consommation de gaz, de 59% de bouses séchées, de 54% de consommation de bois. Donc c'est quand même assez massif et on l'a quantifié. Et ce qu'on a vu en équipant ces 700 et quelques familles de cuiseurs solaires, c'est que ça a permis d'éviter l'émission de 3400 tonnes de CO2 sur la période 2017-2027. Ça répond aussi à l'ODD 5 sur l'émancipation des femmes, puisqu'elles sont autonomisées, elles sont formées à la construction, à l'utilisation des cuiseurs. Elles participent à des ateliers de renforcement d'estime de soi. Et ça répond enfin à l'ODD numéro 8 et à l'ODD 10, le travail économique décent, la réduction des inégalités, puisque les familles font des économies financières sur l'achat de combustible de cuisson. Les femmes sont moins fatiguées et les cuiseurs solaires peuvent aussi être utilisés pour un usage productif et générer des revenus grâce à la transformation et au séchage de certains produits.
Bonjour, je suis Thierry Le Révérend, directeur général de Terre Agir. Alors, l'histoire de Terre Agir, en fait, commence avec l'éducation à l'environnement, c'est-à-dire la prise de conscience qui existe dans les années 70, début 80, du fait que ces enjeux vont monter. Il n'y en a pas beaucoup qui sont en train de le voir. Il y a déjà les premières grandes associations militantes qui se sont créées. Et il y a des gens qui sont au Conseil de l'Europe, pour le dire très précisément, l'origine, et qui travaillent dans une commission pour comprendre comment on va accompagner les populations, les décideurs, à intégrer les enjeux, les porter et participer aux transformations qui vont venir. C'était il y a 40 ans, et aujourd'hui, on est complètement dedans.
On est jusqu'au cou dedans, quelque part. Les enjeux sont devenus même plus importants qu'on ne l'avait imaginé, puisqu'à l'époque, on n'avait pas encore les épées climatiques au-dessus de nos têtes, l'effondrement de la biodiversité. Enfin, on n'avait pas imaginé que ça irait si loin. Et donc, le but, c'est vraiment de reconnaître l'éducation comme un des leviers les plus puissants, en fait, de transformation, d'accompagnement et des sociétés, et aussi comme une nécessité première pour tout individu. On est profondément ce que nous apprenons au fil de toute notre vie. Ça commence avec l'école, même avant. Ça continue avec l'info. Ça continue avec la formation. Donc, c'est un processus qui nous concerne absolument toutes et tous, tout au long de notre vie. Et donc absolument déterminant. Et donc déterminant aussi pour affronter, comprendre et participer à résoudre des enjeux comme ceux-là qui se posent à nous, qui sont un des plus grands défis de ce siècle, de ce millénaire.
L'environnement et l'éducation à l'environnement, c'est des missions qui sont au cœur de votre association. Qu'est-ce que cela induit dans votre compréhension des enjeux actuels ?
Alors, quand on parle d'environnement, pour moi, ce qui est très fort, en fait, et ça transcende absolument tout ce que l'on fait, c'est qu'on doit rentrer dans des logiques systémiques, je vais le dire avec un mot un peu savant, hein, c'est-à-dire que tout ce que nous sommes, tout ce que nous faisons est le fait d'un entremaillage permanent, en fait, entre les ressources écologiques, les fonctions sociales et les fonctions économiques, absolument tout. Et le monde cartésien, hein, celui qu'on connaît, et il s'est construit en simplifiant tout ça, justement, en isolant la sphère sociale de son côté, la sphère économique de son côté, les écolos de leur côté. Et tout ça s'est joyeusement opposé comme si c'était antinomique et concurrent, alors que ça fait longtemps, en fait, qu'on devrait comprendre qu'on est absolument tous là en même temps. Et donc, parler d'environnement, c'est intégrer d'emblée tout cela. Nous, dès il y a 40 ans, en fait, on était déjà sur des enjeux qui faisaient le brassage des idées sociales, écologiques et économiques. Donc pour moi, l'environnement, c'est ça. Et ce n'est pas l'écologie seulement. Donc c'est ce qu'on essaie de traduire partout. Et partout, on essaye, à notre façon, de façon pédagogue, d'expliquer ce qui nous relie à ces grands enjeux. Ces grands enjeux, je disais tout à l'heure, l'épée de Damoclès, ce grand truc au-dessus de nos têtes, tout le monde ne comprend pas bien exactement ce que c'est cet enjeu climatique et en quoi on est responsable. Parce que c'est compliqué, parce que c'est au-dessus de nous, c'est une forme de cloud. La biodiversité, c'est pareil. Personne, quand on mange un steak, ne se sent forcément coupable et ne pense qu'il est en train de détruire quelque chose de primordial dans la biodiversité mondiale. Et pourtant, l'ensemble de ces petits gestes participent bien à ces problèmes. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils sont si gros, en fait. C'est qu'ils sont le fait de tout ce qui se passe, aussi bien quand on s'habille, qu'on mange, qu'on part en vacances, qu'on regarde du streaming. C'est l'addition de tous ces gestes qui convergent comme un énorme fleuve vers ces grands problèmes qui catalysent donc l'ensemble de nos actes et partout dans le monde. Donc, ce qu'on doit réapprendre, en fait, c'est en quoi nos gestes les plus élémentaires, simples, au quotidien, sont bel et bien reliés, en fait, à quelque chose de beaucoup plus grand, global, et qui nous invite à l'humilité, quelque part, aussi, parce que personne n'est méchant. Moi, je pars du principe que personne n'est méchant, personne n'a envie de détruire le monde, détruire le climat. On n'est pas en train de parler à des gens qui sont malveillants. Mais souvent, par ignorance, en fait, on n'a pas la conscience, en fait, de ce que l'on est en train de faire. Donc, notre travail, c'est vraiment de révéler tous ces fils invisibles qui existent et qui sont omniprésents et qui doivent, un, commencer par éveiller les consciences, transformer ces prises de conscience en désir d'engagement, en donnant des leviers concrets pour comprendre ce que l'on peut faire à son échelle et donc de déclencher massivement des transformations sociales, économiques, politiques. On a confiance dans le fait qu'en travaillant aussi avec les individus, en fait, on peut parvenir à créer les bascules nécessaires.
À l'intérieur des programmes de votre association, il y a une forme qui est un peu particulière, qui est celle du label. Pouvez-vous nous en parler et nous dire sur quelle stratégie ça repose, ce choix ?
On a cherché des leviers pour agir efficacement. On n'est pas l'État. Si on était l'État, on pourrait décider de lois qui auraient un impact majeur, global, mais on n'est pas l'État. On n'est pas une fondation non plus, on n'a pas les moyens d'une fondation, on est une association. Et un des leviers intéressants qu'on a su créer, en fait, c'est de valoriser des initiatives qui sont vraiment positives. Vous le savez, vous le voyez bien, tous les jours dans le monde, on est noyé d'informations absolument dramatiques. Les médias ont parfois ce filtre-là, parce que les gens le demandent peut-être aussi. C'est qu'est-ce qui est inquiétant, tout ce qui nous inquiète, tout ce qui est alarmant, tout ce qui est spectaculaire occupe le devant de la scène. Et en fait, c'est une représentation erronée en fait, de la réalité de tous les actes qui ont lieu tous les jours dans le monde. Il y a énormément de choses positives et elles sont sous les radars. Pour nous, le label, c'était de donner la parole et de mettre en lumière tout ce que nous savons qui existe et qui peut servir pour inspirer tous les autres. Donc, on a créé des labels d'abord pour montrer qu'il y a des choses absolument positives qui existent, les valoriser. Hein, des labels, c'est quand même très valorisant, ça les distingue. Et puis, à partir de la communication qu'on a réussi à construire avec nos labels, en fait, de donner des exemples qui montrent que c'est possible, comment un élu local du littoral a réussi à gérer des enjeux relatifs à la biodiversité, concilier du tourisme en nombre sur ces plages avec la protection des dunes à l'arrière, par exemple, et de la biodiversité. Ça existe, il y en a qui y arrivent, il y a des expériences. Il y a des gens qui essayent tous les jours. Eh bien, nous, on est les témoins de cela. Quand on voit que c'est magnifique, eh bien, on le distingue, on le raconte, on le véhicule. On travaille aussi à de la communication qui fait que ces histoires se multiplient, se répètent.
Alors, quel est-il ce label dont vous parlez sur les littoraux?
Alors, un de nos labels, c'est d'ailleurs notre premier label et c'est même un des premiers labels qui a été créé au monde, c'est le Pavillon Bleu. C'est une initiative qui a eu lieu en matière de tourisme balnéaire et portuaire pour distinguer des politiques, des gestionnaires qui essayent de concilier justement les enjeux touristiques, qui étaient très forts hein, à partir des années 70, avec les enjeux de l'environnement. Donc on a créé un label, on a inventé tout simplement un cahier des charges de près de 100 critères qui portent sur la gestion globale de l'écosystème littoral et de la plage, puisque c'est quand même le lieu sur lequel vont les touristes, pour garantir que la qualité du milieu est absolument préservée. Mais ceci n'est absolument pas possible si, en amont, il n'y a pas eu une politique globale d'assainissement, de gestion des déchets, de protection des espaces, de protection même des aires avec dunaires et répartition des espaces, etc.
Vous l'avez dit, dans votre cahier des charges, il y a 100 critères. C'est un nombre quand même assez élevé et j'imagine que c'est quelque chose qui peut faire peur aux maires, aux élus. Comment ça se passe, la prise de contact? Est-ce que c'est les mairies qui viennent vous voir ou est-ce que vous avez un travail où vous essayez de convaincre les maires ou les élus, les villes?
Alors, tout ce que l'on fait est volontaire. Mais tout ce que l'on fait est connu et les gens qui sont nos cibles, entre guillemets, sont invités à nous rejoindre et à participer avec des appels à projets que l'on envoie hein, à des collectivités territoriales, au monde de l'école, pour connaître nos projets et nous rejoindre. Ce qui est intéressant aussi, et c'est là où on est une association, hein, c'est-à-dire que notre mission vraiment c'est d'éduquer. C'est pas de faire de l'argent, c'est pas de vendre des choses à tout craint. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est de faire entrer en démarche. Donc du coup, chacun de nos projets inclut un volet en fait, qui est absolument libre, libre et gratuit, et qui permet d'entrer en démarche, c'est-à-dire de se questionner, de se documenter, de se former. Et seulement quand je suis prêt, je peux candidater, participer. Et là, éventuellement, ça demande des frais de participation, mais même pas toujours d'ailleurs. Hein. La totalité de nos programmes d'éducation sont d'une totale gratuité pour les participants.